Cette semaine, c'est la dernière semaine de l'émission Nos matins d'été. C'est aussi la dernière chronique à vol d'oiseau. Et on va terminer avec M. Norbert Lacroix, président du Club des ornithologues de Québec. M. Lacroix, bonjour.
Bonjour, Mme Vance.
Alors, c'est très, très, très plaisant pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Surtout que le sujet, c'est quel est votre oiseau préféré parmi tous ceux qu'il vous a été donné d'observer. Alors, je vous laisse le soin de nous le présenter d'abord par son chant. On peut dire que c'est un très bon chanteur. De qui s'agit-il?
Il s'agit de l'Oriole de Baltimore, qui est un oiseau. Il y a une équipe de baseball qui porte ce nom-là, mais l'équipe a emprunté le nom à l'oiseau et non pas l'inverse.
Oui. Alors, vous pouvez nous le décrire, s'il vous plaît?
C'est un oiseau qui est un peu plus petit que le merle d'Amérique, que les gens appellent rouge-gorge, mais presque de cette taille-là, un peu plus élancé cependant. C'est un oiseau qui est noir en général, mais avec toute une partie orange à partir de la poitrine jusqu'en dessous de la queue. Et il y a un peu de blanc sur les ailes aussi, et un petit peu sur le dos. Mais c'est spectaculaire comme oiseau. Orange et noir, imaginez.
Oui, oui, c'est ça a beau contraste.
C'est un peu flamboyant, hein? Oui.
Et alors, pour vous, ça a été une découverte, ça. J'espère que vous allez nous raconter comment c'est arrivé.
C'est arrivé un printemps alors que j'avais 10 ans. J'ai grandi sur une ferme dans l'Outaouais, entre Ottawa et Montréal, un peu plus près d'Ottawa, à une quarantaine de kilomètres d'Ottawa. Un matin de printemps, j'avais à peu près 10 ans, j'ai vu deux oiseaux comme ça, orange et noir. Ben, en fait, la femelle est un peu plus pâle, pas tout à fait orange flamboyant, mais et pas tout à fait noire, mais plutôt brune, mais très semblable au mâle. Et j'ai vu ça dans un arbre derrière la maison. Qu'est-ce que c'est ça? C'est donc bien intéressant. Je me suis arrangé pour savoir ce que c'était. J'avais un oncle du côté de ma mère qui s'intéressait beaucoup à la nature et c'est avec lui qu'on a fini par trouver ce que c'était. Et c'est à partir de là que j'ai développé mon goût pour connaître les oiseaux. Et sur la ferme, chez nous, j'ai connu à peu près une cinquantaine d'espèces d'oiseaux à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à l'adolescence.
Alors, l'Oriole de Baltimore, on le voit au Québec à quelle période de l'année?
Ben, il vient nicher ici et, bon, bien malin, qui va découvrir son nid? On pourra revenir là-dessus. Mais il arrive au printemps. Pour en voir, on en a dans les parcs de la ville, en particulier le parc des Hauts-Fonds à Saint-Augustin. Et habituellement, il y en a toujours au moins un couple. Là. C'est assez grand pour en accueillir plus d'un couple, mais généralement, il y en a un couple et on l'entend chanter aussi quand on fait des excursions là-bas au mois de mai. Donc, il n'y en a pas à profusion dans la région de Québec. C'est à peu près la limite nord de son aire de répartition.
Il reste combien de temps?
Il va rester ici jusqu'à la fin de l'été. En tout cas, sûrement.
Après ça, il retourne à Baltimore?
Il retourne même plus loin. Mais Baltimore, c'est probablement parce que ça a été là qu'a été la première observation quand les Européens sont arrivés. Puis, donc, on l'a appelé l'Oriole de Baltimore. Comme on nomme d'autres oiseaux, notre grand-duc d'Amérique, ça s'appelle en latin, le nom scientifique, il s'appelle le hibou de Virginie.
Oui.
Parce que ça a été la première fois qu'il a été observé ou le premier spécimen identifié, c'était de là qu'il venait.
Alors, vous nous avez dit bien malin qu'il voit son nid. Parlez-nous de son nid parce que je pense que c'est quelque chose de très spécial.
Le nid est tressé en forme de sac. Il pend au bout d'une branche molle, puis à travers les feuilles. Sur la ferme, chez nous, j'ai jamais réussi à le trouver, même pendant plusieurs années, mais on voyait toujours le nid pendant, au bout de cette branche molle d'un grand orme dans notre cas chez nous, rendu à l'automne quand les feuilles commençaient à tomber. Ah, il est là, le nid, cette année. Il changeait d'endroit d'une année à l'autre.
Ah oui?
Alors, je n'ai jamais réussi à voir le nid en action. Seulement plus tard à l'automne.
Dites-moi, l'oriole de Baltimore fait partie de quelle famille d'oiseaux?
Cette famille-là s'appelle les Ictéridés, une famille d'oiseaux à bec long et pointu. Pas long comme les oiseaux de rivage, par exemple, mais un bec pointu, pas trop conique, assez long, assez fin. Et c'est un oiseau qui peut manger à peu près n'importe quoi, des graines, des insectes, des vers, des larves.
C'est un omnivore.
Exactement. Et il ne mange pas d'autres oiseaux, cependant, comme les éperviers et les faucons. Mais c'est un oiseau qui mange à peu près de tout.
Puis ils font partie, ces oiseaux-là, donc de cette famille. Et il y a beaucoup d'oiseaux dans la même famille.
Il y a beaucoup d'oiseaux dans la même famille. On a un oiseau des champs ici qui s'appelle la sturnelle des prés, qui est brunâtre sur le dessus, mais qui est jaune devant, avec une belle bavette noire. C'était très abondant autrefois. Maintenant, il y en a de moins en moins. C'est des oiseaux qui nichent dans les champs de foin. Et souvent, le fauchage a lieu plus tôt que ça devrait pour le bien-être des oiseaux. Et leurs nids sont détruits quand la faucheuse passe trop vite. Alors, c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins. Mais c'est un oiseau qui est assez agréable à voir. D'autre part, on a des oiseaux noirs qui sont dans la même famille aussi, comme les quiscales bronzées. Nous avons aussi le goglu des prés, qui est un oiseau qui égrène une cascade de notes mélodieuses dans les champs. Il y en a de moins en moins aussi, mais on peut en voir ici et là. Il y a des cultivateurs qui font exprès pour ne pas faucher certains coins de leurs champs, sachant que c'est là que les gogus se tiennent.
Pour leur donner une chance.
Pour leur donner une chance, parce que c'est tellement agréable à entendre. C'est un oiseau qui a du jaune, du blanc et du noir comme livré. Il y a le vacher à tête brune qui, lui, suit les troupes d'animaux. Ça, c'est un parasite. Je vais expliquer brièvement ce que ça veut dire. Lui, il pond ses œufs dans les nids d'autres oiseaux, habituellement un œuf à la fois dans d'autres nids, de façon à faire élever ses jeunes. C'est l'évolution qui a voulu ça ainsi parce qu'il suivait les troupeaux de bisons dans l'Ouest. Donc, il n'y avait pas le temps de nicher. Les bisons se déplaçaient, alors ils se dépêchaient. De temps en temps, on dépose un œuf dans le nid d'un autre oiseau, ainsi de suite. Puis on fait élever ses jeunes par les autres.
Par les autres, bien, pas de la même espèce.
Pas de la même espèce.
Puis les autres, ils acceptent de faire ça?
Ils acceptent de faire ça.
Comme une garderie, là.
Une sorte de garderie. La nature fait les choses comme ça. Puis, ces jeunes-là,
c'est des associations.
Qu'ils étaient élevés,
oui, c'est des associations.
Ils s'en allaient rejoindre leurs congénères, les autres vachers.
Ah, bien, ça, c'est incroyable. Puis,
les coucous font la même chose aussi.
Oui?
Les coucous pondent dans les nids d'autres oiseaux. Et nous avons deux espèces de coucous au Québec aussi, en passant.
Les voit où, ces oiseaux-là?
Ils sont difficiles à voir, ils sont très discrets, très élusifs, si on peut dire ça comme ça. Parce que moi, j'en ai jamais vu en Europe, mais j'en ai entendu quelques fois. Mais j'ai jamais réussi à les voir.
Donc, dans cette grande famille-là des oiseaux de l'oriole de Baltimore, votre préféré parce que celui qui vous a initié à l'ornithologie, il y a aussi le quiscale rouilleux. Ça, c'est quoi, ça, exactement?
C'est un oiseau, ça, qui niche dans le nord, pas mal dans le nord, dans les endroits où il y a des tourbières, des marais, des choses de ce genre-là. Et lui, il est noirâtre quand on le voit au printemps. Et quand il revient à l'automne, il est de couleur rouille. Les plumes changent et les nouvelles plumes qui repoussent sont couleur rouille. Les jeunes sont à peu près de la même couleur aussi. Alors, on en voit à l'occasion, à l'automne. Il est plus rare qu'il était autrefois. Mais j'avais un visiteur anglais bientôt deux ans, et puis on a eu la chance d'en voir deux à la base de plein air de Sainte-Foy avec lui. J'étais relativement heureux, et lui, ben ça a été communiqué à lui. « Ah, un oiseau rare comme ça, et nous sommes là pour le voir les deux. » Alors, c'était assez agréable comme expérience.
Norbert Lacroix, on entend depuis le début de l'été, pour vous et pour vos collègues, cette passion qui vous anime. Évidemment, vous avez fait votre carrière, hein, vous avez été professeur de mathématiques, mais ça, c'est une autre histoire. Mais la passion de l'ornithologie, de l'observation des oiseaux, elle semble avoir débuté à l'âge de 10 ans, mais elle semble ne pas vouloir s'éteindre. Elle veut toujours s'agrandir pour vous. Est-ce que je me trompe?
C'est exactement ça. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à apprendre sur les oiseaux. Et une chose qui est intéressante aussi, c'est de passer cette connaissance-là, cette expérience que nous avons, à d'autres qui veulent en apprendre. Ça, moi, je suis un éducateur né, pour ainsi dire, et c'est comme ça que je continue, même si je suis à la retraite depuis quelques années de l'université. C'est comme ça que je continue à faire de l'enseignement, à communiquer des choses que je sais, mais dans le monde des oiseaux.
Alors, ça a été un plaisir que vous soyez des nôtres cet été. Je vous remercie beaucoup de votre participation à Vol d'oiseaux.
Ça a été très agréable et en particulier que le Club des ornithologues contribue à votre émission tout au long de l'été.
Alors, je vous souhaite un bel automne.
Merci beaucoup, à vous aussi.